je vais partager avec vous quelques observations et réflexions sur les dynamiques juridiques sans précédent dans les États du sud de la Méditerranée, l'Afrique, disons, méditerranéenne et sahélienne. Et je concentrerai mon propos sur les emprunts et les inspirations qui nourrissent ces dynamiques. Donc, je ne parlerai pas là des influences, mais des options juridiques qui sont discutées ou choisies par les législateurs parmi un ensemble de possibilités. Alors, il s'agit tout d'abord de rappeler que jusqu'au début des années 2000, l'ensemble des États du sud de la Méditerranée ne s'était pas du tout soucié de l'arsenal juridique autour de la migration, qui datait généralement des indépendances, comme en Algérie, même avant les indépendances, comme au Maroc, ou des années 70-80 pour l'Afrique sahélienne. Et dans la décennie 2000, on a assisté à un mouvement qu'on pourrait qualifier de soudain, un mouvement juridique qui a touché l'ensemble des pays maghrébins, de la Mauritanie, alors le Grand Maghreb, de la Mauritanie à la Libye, d'abord concernant l'entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire et la sortie du territoire. Une autre vague de réformes qui touche ces mêmes pays sur l'accès à la nationalité. Ensuite, certains pays ont adopté de nouvelles lois contre le trafic de migrants, la Mauritanie et l'Algérie, contre la traite des personnes, le Sénégal, la Mauritanie et l'Algérie. Et il faut préciser que ces réformes des années 2000 se situaient quand même des mouvements juridiques plus larges, c'est-à-dire qui touchaient beaucoup d'autres domaines, parfois liés comme celui de la famille, le travail, mais encore beaucoup d'autres. Donc il y a d'abord un développement du droit qui est général, un mouvement de législation. Et depuis 2011, un nouveau vent de réforme souffle sur la région qui touche quelques pays, qui vise de nouveau à développer les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, donc c'est-à-dire à réformer les réformes de la décennie précédente. Au Maroc, en Tunisie et en Mauritanie, où on continue à travailler sur le même projet que la décennie précédente, de nouveau aussi légiférer contre la traite, deux projets de loi discutés au Maroc et en Tunisie, et puis contre le trafic de migrants, le Niger, premier pays sahélien à avoir adopté une loi contre le trafic de migrants en mai 2015, et première réforme dans ce pays depuis les années 80. Et puis, des réformes très importantes en cours pour la mise en place de régimes d'asile en Tunisie, au Maroc, et peut-être en Mauritanie, et peut-être en Algérie. Donc on a déjà une convergence juridique dans le seul fait de légiférer. Face à ces réformes, et en particulier celles des années 2000, dans leur dimension restrictive et répressive, la première réaction a été de considérer que puisque ce mouvement était incontestablement lié à une pression de l'Union européenne pour que ces États contrôlent leurs frontières, et parce que ces pays étaient qualifiés de transit, d'une part, donc, la réaction a été de considérer que le contenu des lois devait sans doute avoir été imposé par l'Union européenne, et d'autre part que il consistait sans doute en un copier-coller des législations européennes. Or, la notion d'émulation, qui a justifié l'intitulé de notre session matinale, présente deux atouts majeurs à mon sens, qui sont d'un intérêt tout particulier lorsqu'on aborde les dynamiques juridiques dans les pays du Sud, généralement considérés comme récipiendaires d'un droit exogène, un droit importé, voire un droit imposé. D'abord, cette notion d'émulation, elle permet de partir de celui qui développe son droit et non pas toujours de celui qui cherche à l'influencer. Et elle traduit simplement l'idée d'un contexte qui stimule l'action et qui offre des modèles d'inspiration et des possibilités d'emprunt. Ce biais permet de soutenir une démarche qui entend souligner l'agency, qui est une notion un peu à la mode, c'est-à-dire la capacité d'action, la capacité de choix des États, des sociétés, je me reprends, des sociétés au sein de ces États, y compris des sociétés du Sud, dans leur propre développement juridique. Par ailleurs, l'idée d'émulation porte en elle le caractère interactif des processus de création et de diffusion des normes. William Twining, qui a travaillé sur la diffusion des normes, et Hélène Lambert, tout à l'heure, qui l'a rappelé, ont précisé que la diffusion des normes donc, n'est pas un processus unidirectionnel d'une source qui se transpose à une autre, mais réciproque dans la mesure où l'emprunteur va s'approprier la norme en l'adaptant. Mais à l'observation des processus en cours depuis 2011 et des métamorphoses du droit qui sont étudiées par ailleurs par de plus en plus de chercheurs, je propose d'explorer l'idée de processus pluriel d'émulation normative du fait de la multiplicité des influences normatives qui interviennent et interagissent dans les processus de fabrique du droit. Au sein d'une même loi, les législateurs vont s'inspirer de divers textes sources étrangères. Par ailleurs, une même norme peut avoir été inspirée de diverses sources, et c'est l'agrégation de ces modèles qui va justifier d'y recourir. Et enfin, une norme empruntée peut ensuite être appropriée, pas seulement pour s'adapter au terrain, mais par l'emprunt à une autre source. Donc c'est une pluralité de vecteurs qui se branchent aux dynamiques juridiques. Je citerai dès maintenant un exemple, un peu teasing, qui porte sur les campagnes de régularisation sans précédent qui ont été menées en Mauritanie et au Maroc et qui s'inspiraient d'évidence des modèles espagnols et français et qui ont en ceci été dénoncées pour les critères de régularisation qui n'étaient pas très adaptés au terrain et notamment dans leur difficulté donc, d'apporter les preuves pour être régularisées. Et la régularisation a tâtonné, justement elle s'est un petit peu adaptée, et notamment au Maroc, sous l'influence et les recommandations du Conseil national des droits de l'homme, qui a proposé et obtenu la régularisation de tous les Syriens qui ont obtenu une protection temporaire. Et là, il s'inspirait du HCR qui préconise la reconnaissance prima facie de groupes d'individus. Donc on avait adaptation par l'emprunt à une autre source, et il y a eu aussi régularisation de toutes les femmes, où là ils s'inspiraient de modèles, bon, par exemple encore de l'Espagne. Le droit se fabrique toujours sous influence, mais je dirais plus particulièrement sous contrainte, puisque de multiples interactions donc, sont possibles entre des acteurs internes et externes qui proposent, avec leurs moyens d'action et de persuasion propres, des emprunts, des inspirations, des solutions juridiques qui se confrontent ou se confortent. Et c'est en fonction d'un ensemble d'objectifs et de contraintes que le législateur s'inspirera d'une source et d'une autre ou d'une autre. Or, ces contraintes pesant sur la fabrique du droit varient dans l'espace, d'un pays à l'autre, et dans le temps. Et je me permettrai donc de diviser ma présentation de manière presque chronologique en distinguant les réformes de la décennie 2000 et les réformes en cours du fait des changements, à mon sens, fondamentaux qui ont lieu entre les deux décennies et qui en affectent les processus et donc les inspirations. Alors, tout d'abord, les modes et modèles des années 2000... Je commence par peut-être indiquer quelles étaient les contraintes pesant sur la fabrique du droit. Ces contraintes étaient très fortes et ciblées dans les années 2000. On a déjà parlé du contexte, donc je passerai rapidement là-dessus. Il y avait en gros une pression très forte sur l'idée de transit et sur une nécessité de contrôler les frontières méditerranéennes. Et une compétition entre États du Sud dans leur volonté d'afficher une contribution à la lutte contre la migration irrégulière. Et parallèlement, très peu d'acteurs internes, avec des actions de la société civile sans impact, inaudibles. Une dernière précision, l'enjeu de la migration était très nouveau, il était incompris, et il était présenté sous l'axe des subsahariens, ces fameux subsahariens destinés à l'Europe. Donc on a assisté à des processus accélérés qui ont gravité autour des ministères de l'Intérieur. Alors quels ont été les emprunts et les inspirations? Il y aurait tellement à dire, je vais citer vraiment quelques petits exemples ciblés. Et je commencerai par l'exemple de convergence sous-régionale le plus frappant, qui est celui du délit de sortie irrégulière du territoire, applicables aux nationaux et aux étrangers et qui représente une spécificité régionale pour laquelle, justement, laquelle on ne peut pas trop trouver de modèle dans le monde. On a parfois la pénalisation de la sortie des nationaux. Dans d'autres États dans le monde, donc des nationaux, c'est surtout dans des pays très autoritaires comme l'URSS à l'époque, ou Cuba, ou la Corée du Nord. Et ensuite, on a le développement, effectivement, de la pénalisation de la sortie des étrangers qu'on retrouve dans des pays sous forte pression qualifiés de transit comme la Malaisie. D'autres comme le Mexique ne l'ont jamais adopté, s'y sont refusés. Alors, ce délit existait déjà en Tunisie pour les étrangers nationaux depuis les lois de 68 et 75. Et il a été étendu au Maroc en 2003 et ensuite à l'Algérie en 2008-2009. Donc c'est vraiment très intéressant puisque en ceci on n'a pas de modèle juridique, il n'y a pas d'inspiration juridique, ils n'ont pas tiré une leçon juridique extérieure. En revanche, ils se sont inspirés, ils ont une inspiration politique au sein des forums et notamment de ce fameux dialogue 5+5 où on parlait beaucoup de l'émigration irrégulière. À l'extrême inverse de cette production juridique locale, des emprunts peuvent être proposés clé en main. Et en particulier lorsqu'il s'agit de transposer des traités internationaux, comme c'est le cas du protocole contre le trafic de migrants. Et là, je viendrai donc avec un exemple plus contemporain, celui du Niger, puisque le type d'emprunt et l'étendue de l'appropriation va dépendre des acteurs et des compétences sur place. Le Niger, qui connaît très peu de dynamique juridique, qui a très peu de compétences sur place, eh bien, va souvent recourir à des acteurs externes, et en particulier lorsqu'on lui apporte, comme c'est le cas des organes des Nations Unies, un modèle de projet de loi. Ça a été le cas du Bureau des Nations Unies contre le crime et la drogue, qui a donné une assistance technique au Niger, et qui arrive avec une proposition de texte qui reprend le texte du protocole. Donc ça a été le cas au Niger, c'est beaucoup moins le cas dans des pays comme l'Algérie où il y a davantage de compétences et puis où aussi, par culture politique, on ne souhaite pas prendre un texte comme ça que l'on nous fournit. Donc dans des pays qui ont déjà légiféré contre le trafic comme l'Algérie et la Mauritanie, on constate des différences même dans la définition du trafic, qui n'est pas la même que dans le protocole. Et là, ça relève bien sûr justement de l'appropriation dont on a déjà parlé. Et d'autres pays comme le Maroc et la Tunisie avaient préféré ne pas du tout reprendre la notion de trafic, mais plutôt d'élargir la définition d'une aide à la migration irrégulière sur une base pas seulement pour un intérêt pas seulement lucratif. Donc là, il maintenait et renforçait le délit de solidarité, légitimé en cela par un modèle, si on peut dire, européen, puisque ce délit de solidarité est extrêmement répandu en Europe également. Donc, deux mots pour finir sur le renforcement de l'arsenal répressif dans les années 2000, qui a été constitué effectivement d'emprunts au droit international ou alors parfois seulement légitimé par du droit européen ou d'autres standards internationaux, comme justement la pénalisation du séjour irrégulier qui existait déjà mais qui a été renforcée. On a eu des emprunts nouveaux, comme le délit de mariage de complaisance qui a fait son entrée. On a eu, voilà, les nouveautés aussi dans les mesures d'enfermement, zone d'attente à la frontière, centre des rétentions. Et puis, parfois, donc aux côtés de productions purement locales, comme le délit de non-délation en Tunisie, mais aussi en Algérie. Par ailleurs, on a eu très très peu d'emprunts, bien sûr, des droits et garanties procédurales, parce qu'il n'y a finalement pas besoin d'emprunter ces normes pour atteindre les objectifs définis. Et là, je donnerai deux exceptions. La première exception, c'est le projet de loi mauritanien, qui était étonnamment un copier-coller pour le coup de la loi française, mais y compris dans les droits et les procédures. Et bien, du coup, ce projet de loi a été rejeté par le Sénat. Il n'a jamais été adopté. Il est toujours en suspens. Et l'autre exemple, c'est celui du Maroc, qui avait un petit peu picoré ici et là quelques droits et garanties procédurales qui n'ont jamais été appliquées. Et l'ironie de l'histoire est que ce n'est qu'en 2015 que certaines garanties, notamment contre l'enfermement des migrants, ont été mises en œuvre sous l'action d'associations de la société civile et puis également d'un juge en particulier, un juge, parce qu'il faut bien ensuite que les juges acceptent de faire leur travail, donc alors que cette loi même est en passe de disparaître. Et ceci constitue une transition avec ma partie suivante, pour laquelle il me restera sans doute très peu de temps, parce que elle illustre l'intrusion de nouveaux acteurs dans la sphère juridique, mais surtout leur appropriation des moyens juridiques, inspirés eux aussi de moyens d'action que l'on retrouve en Europe ou dans d'autres pays, là où ce mode d'action est possible. Alors, les contraintes ont évolué. Ces contraintes, très rapidement, le problème, entre guillemets, des réfugiés et, de la présence étrangère a évolué, puisque il y a eu davantage de réfugiés, enfin, la grosse crise des réfugiés historique en Tunisie. La présence immigrée, et donc pas seulement de transit au Maroc, on prend conscience qu'on va s'attaquer à ce problème. L'appropriation du débat et des moyens juridiques par la société civile, les médias, les partis politiques qui sont plus nombreux, plus dynamiques et plus audibles. Et puis toujours la question, l'enjeu du contrôle, et cette fois-ci pas seulement des sorties. Alors les inspirations et les emprunts, j'espère avoir le temps de donner trois exemples. Je partirai d'abord du projet de loi marocain sur l'entrée et le séjour des étrangers, qui est une mine d'inspiration potentielle et qui montre une diversification de ces inspirations, parce qu'elle commence par une liste des droits des migrants, qui est unique à ma connaissance, au sein même d'une loi sur l'entrée et le séjour des étrangers, mais qui est inspirée de standards européens, comme la charte, par exemple, des droits, mais des standards européens qui ne sont même pas appliqués dans tous les pays européens. Et je citerai juste l'accès à la santé gratuite pour tous les étrangers, quelle que soit leur situation administrative. C'est particulièrement ambitieux. Cette liste proclame un droit à la migration, dont la source serait aussi assez difficile à trouver, qui découle des revendications des réseaux transnationaux de la société civile, ouvrez les frontières, mais qui cohabite dans le même projet de loi avec le maintien de la pénalisation de la sortie irrégulière du territoire. Beaucoup plus d'emprunt, bien sûr, sur les droits et les garanties procédurales, mais toujours quand même appropriés et donc relatifs. Et je mentionnerai aussi que ce projet prévoit des procédures accélérées à la frontière en estimant que ce sera prévu dans le projet de loi sur l'asile, mais ce projet de loi sur l'asile, en tout cas la version qu'on avait de printemps dernier, ne contenait pas ces procédures accélérées, ce qui montre qu'au sein même de l'État, de la société, il peut y avoir des divergences entre les commissions qui développent les projets de loi. Et du coup, j'en viens au projet de loi sur l'asile qui confirme, donc je ferai deux grandes remarques. On y voit la confirmation de ce qu'Hélène a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire le pouvoir d'attraction des mesures restrictives et qu'on trouve justement en Europe, puisque c'est en Europe qu'on a développé des mesures restrictives moins généreuses, enfin qui permettent d'interpréter de manière moins généreuse la Convention de 51. Comme les procédures accélérées. Même remarque qu'Hélène, avec une appropriation qui tend à les rendre encore plus restrictives. Et également l'emprunt de mesures moins protectrices comme la protection temporaire et la protection subsidiaire, sans mise en application, donc en allant à l'encontre de l'esprit et la lettre de la Convention de l'OUA sur les aspects propres aux réfugiés en Afrique. Et donc je terminerai là-dessus. On note l'absence totale d'inspiration africaine, même si cette convention de l'OIA elle est mentionnée dans les préambules des projets de loi sur l'asile. Elle n'a aucun impact ensuite sur les développements des lois, sur le contenu. Pourquoi le droit africain n'est pas... Alors, il faut rappeler que cette convention, elle date de 1969, qu'elle n'a jamais été mise en œuvre, Elle prévoit d'ailleurs tout un système de collaboration. Même la position africaine sur la migration de 2006 ne la cite pas. Ne propose aucune norme alternative à développer sur le continent. Donc on voit tout simplement que il n'y a pas de dynamique africaine. Elles sont datées, elles ne sont pas développées, il n'y a personne pour les promouvoir. Même la société civile n'y fait pas appel. Et peut-être que d'autres types d'inspirations sont amenées à se développer, et notamment par des passerelles qui se tissent progressivement avec les États d'Amérique latine, qui ont une grande expérience dans le droit de la migration et de l'asile, et de la collaboration, et qui sont éventuellement des modèles susceptibles d'inspirer des solutions alternatives, parce que je n'ai pas eu le temps de développer davantage, mais si on observe notamment le Maroc, on voit une volonté quand même de questionner les sources d'inspiration les plus diffusées et d'aller en chercher ailleurs. Je vous remercie.